Charles Barbara, l'assassinat du Pont Rouge, deux amis. Dans une chambre claire, inondée des rayons du soleil d'avril, deux jeunes gens déjeunaient et causaient. Le plus jeune, d'apparence frêle, avec des cheveux blonds, des yeux extrêmement vifs, une physionomie à traits prononcés où se peignait un caractère ferme, faisait à côté de l'autre, qui avait des joues encore roses, des buissons de cheveux bruns et cet œil langoureux particulier aux natures indécises qu'un rien abat et décourage, un contraste saisissant. Le blond disait Rodolphe en s'adressant au brun, et ce dernier appelait Max, le jeune homme aux yeux bleus, dont le vrai nom était Maximilien d'Estroy. C'étaient deux camarades d'enfance et de collège. Ils devisaient sur la littérature, et Rodolphe, qui dans un état de marasme était venu voir son ami avec l'espoir d'un allègement, s'appesantissait sur les mécomptes, l'amertume, les épines sans rose de la vie d'artiste. Au contraire, il semblait que Max se fit un jeu d'ajouter à cette mélancolie. Les productions de ces rares élus, que l'on compare justement aux arbres à fruits exceptés, disait-il, les œuvres d'art, sont en général des filles de l'obstacle, et notamment de la douleur. Et par là, je ne prétends pas que le bonheur stériliserait un homme de génie, mais dans ma conviction, nombre d'hommes supérieurs, pour ne pas dire la grande majorité, doivent être tels ou au mépris qu'on a fait d'eux, ou aux empêchements qu'on a semés sur leurs pas, en un mot à des souffrances quelconques. Pour Rodolphe, qui, à l'instar de tant d'autres, ne voyait guère dans les arts qu'un moyen de satisfaire les appétits et les vanités qui tenaillaient sa chair et gonflaient son esprit, cette sorte de profession de foi était littéralement une ortie entre le cou et la cravate. D'un air piteux, il regardait alternativement son chapeau et la porte et se remuait à la façon d'un enfant tiraillé par la danse de Saint-Guy. Les ressources de Max se bordaient présentement à une place de second violon dans l'orchestre d'un théâtre de troisième ordre. La misère ne lui causait ni impatience ni velléité de révolte. Loin de là, dans la douce persuasion de porter en lui le germe d'excellents livres, il puisait la patience héroïque de l'homme sûr de lui-même et de l'avenir. Il n'avait ni horreur ni engouement pour la pauvreté, il la regardait comme un mal utile et transitoire, et au grand scandale de beaucoup de ses amis, comme un stimulant énergique contre l'engourdissement de l'âme et des facultés. Il comprenait parfaitement la pantomime de Rodolphe. Il n'en continua pas moins. Aussi ne puis-je sans irritation entendre gémir sur les douleurs du poète et parler de l'urgence d'en empêcher le retour. J'en demande pardon à ceux qui ont soutenu cette thèse. C'est un paradoxe, un prétexte à déclamation contre une société à qui on peut imputer des torts plus graves. En définitive, l'homme exempt de douleur ne sera jamais qu'un homme médiocre. Il n'y a pas de milieu. Il faut choisir ou d'être une borne, une végétation, un manœuvre ou de souffrir. Il semblait décidément que Rodolphe fût dévoré par des fourmis. Vraisemblablement, sa vertu était à bout. Il se souvint à point nommé d'un rendez-vous de conséquence et se leva avec l'étourderie d'un jouet à surprise. Mais au moment de sortir, frappé par les sons d'un piano qui résonnait à l'étage inférieur, il s'arrêta pour demander qui faisait ainsi rouler des accords. « Une femme avec qui je fais de la musique, » répliqua d'Estroy. « Est-elle jolie ?» Oh, cette question, balbutiée avec un empressement qui la rendait comique, Max fixa sur son ami des yeux étonnés. Puis, peu après, pencha la tête et dit d'un ton rêveur, Oh, tu es plus curieux que moi, je n'y ai point encore pris garde. Je sais par exemple qu'elle est d'une élégance rare et que sa physionomie me plaît infiniment. Oubliant déjà de s'en aller, Rodolphe ne tarissait plus au sujet de cet ami qu'il ne savait pas à destroit. Sommairement, Max répondit qu'elle était veuve, qu'elle donnait des leçons de piano, qu'elle vivait avec sa mère et que la mère et la fille recevaient journellement la visite d'un vieillard nommé Frédéric, qui semblait tout entier à leur discrétion. J'ai pressenti leur gêne, ajouta Max, et je tâche, sans le leur dire, de leur trouver des élèves. Comment se nomment-elles? Voici leur nom, ou du moins celui de la fille, dit Max en prenant une carte de visite sur sa table, Madame Tiare du Cornet. Rodolphe ouvrit démesurément les yeux, et de la porte qu'il entr'ouvrait déjà, revint au milieu de la chambre. Ah, fit-il tout d'une haleine, on voit bien que tu ne lis pas les journaux. Tu connaîtrais au moins de nom le mari de cette veuve. Il était agent de change. On l'a retiré de la scène un matin ou un soir, il n'y a pas de cela très longtemps. La nouvelle, Dieu merci, a fait assez de tapage, car on a découvert dans la caisse du défunt un déficit de plus d'un million. C'était un vrai siphon que cet homme-là, à cheval sur deux urnes, la bourse et le quartier Bréda. Il pompait l'or dans l'une pour l'épancher dans l'autre. Le visage de Max exprimait une stupéfaction profonde. C'est étrange, dit-il. Je pressentais bien quelques secrets funèbres, mais je ne l'eusse jamais supposé si horrible. Attends donc, reprit Rodolphe, je me rappelle quelques détails. Il était en tenue de voyage, en casquette et en manteau, avec un sac de nuit et un portefeuille gonflé de 100 000 francs en billets de banque. À dire vrai, il n'y avait pas là de quoi plomber une de ses dents creuses. Aussi a-t-il donc dit qu'on ne s'était noyé que par remords de ne pas en emporter davantage. Destroy n'écoutait déjà plus. Se secouant la tête, l'air pensif, à mi-voix, il disait « Ah, je m'explique actuellement leur mélancolie. Ce n'est rien d'être pauvre, mais avoir grandi au milieu du luxe et tombé dans la misère, je ne sache pas qu'il soit la fortune plus grande. Cet attendrissement, ramené par une pente sensible à la conversation de tout à l'heure, et Rodolphe qui s'en aperçut en eut le frisson. D'ailleurs, par le fait d'un tic singulier qui devait plus tard dégénérer en maladie, il éprouvait un besoin perpétuel de locomotion et ne semblait entrer dans un endroit que pour songer sur-le-champ au moyen d'en sortir. Pour la deuxième fois, il invoqua la haute gravité de son rendez-vous et se sauva, non moins satisfait de changer de lieu que d'échapper à ce qu'il appelait ironiquement les douches philosophiques du docteur Max. 2. Profil du héros. Tout entier à la préoccupation d'un fait qui lui donnait la clé des tristesses que Madame Tilliard essayait vainement de dissimuler sous des manières calmes et dignes, Destroy, comme il faisait presque quotidiennement, à une heure donnée, se rendit au jardin du Luxembourg. Il s'y rencontra avec un autre de ses amis, un nommé Henri de Villiers, lequel, que ce fût à cause de ceci ou de cela, de sa naissance ou de son entendement ou d'autres choses encore, se posait en défenseur intrépide du passé. Bien que lié avec lui, Max ne l'en trouvait pas moins tout aussi peu logique qu'un homme qui donnerait à tout bout de champ ses péchés de jeunesse en exemple aux errements d'un autre âge. De Villiers, outre cela, chez lequel le sentiment semblait faire défaut, était loin d'avoir l'humeur charitable. Mais il se piquait de mener une vie conforme aux principes qu'il confessait, et ses opinions et ses actes en recevaient un lustre d'honnêteté que Destroy ne pouvait méconnaître. causant de choses et d'autres, ils avaient déjà mesuré nombre de fois de bout en bout à pas compter l'allée de l'observatoire, quand ils se croisèrent avec un promeneur qui dévia de son chemin pour venir à eux. « Mais c'est Clément !» s'écria Max en devançant brusquement de Villiers pour être plutôt auprès du nouveau venu. Dans les mystères de notre nature, à la vue de certains hommes, nous sommes parfois assaillis d'impressions pénibles que nous ne saurions définir. Leur extérieur ne suffit pas toujours à justifier l'antipathie instinctive qu'ils soulèvent. On dirait qu'ils se dégagent de leur vie un fluide qui les enveloppe d'une atmosphère où l'on ne peut respirer sans malaise. Destroit accostait précisément un individu de ce genre. De taille moyenne et dégagée, ses jambes solides, ses bras d'athlète, sa carrure éveillaient des idées de santé et de force que démentait bientôt une figure cadavéreuse, dont les plans à vives arêtes, les plis profonds, les ravages, l'impassibilité rappelaient ses joujoux en sapin qu'on taille au couteau dans des villages de la forêt noire. Ses cheveux châtains, aux reflets rougeâtres, sa moustache rare de couleur rousse, sa peau terreuse, parsemée de taches vertes, composaient un ensemble de tons qui donnait à sa tête une apparence sordide et venimeuse. Par instants, un regard éteint, louche, sinistre, perçait le verre de ses lunettes en écaille. Évidemment, les trous et les désordres de ce visage n'étaient, on ne peut dire, que les stigmates d'une vie terrible. Aussi n'eût-on pas imaginé de problèmes psychologiques d'un attrait plus émouvant que celui de rechercher, par suite de quelles impressions, pensées, luttes, douleurs, cet homme, jeune encore, avec un beau front, des traits fermement dessinés, un menton proéminent, tous les indices de force et d'intelligence étaient devenus l'image d'une dégradation immonde. Max lui saisit les mains avec effusion. De Villiers, au contraire, se composa un maintien glacial. Le dit Clément, de son côté, se borna envers ce dernier à un froid salut, tandis qu'il répondit avec assez d'empressement aux amitiés de Destroy. Aux questions de celui-ci, qui s'étonnait de ne l'avoir pas vu depuis longtemps, et lui demandait s'il n'était plus à Paris, « Aussi fait, répondit-il d'un air de négligence, j'ai changé de milieu, voilà tout. « Est-ce que tu as hérité ?» ajouta Max en jetant les yeux sur les vêtements neufs et bien faits de son ami. Une expression d'inquiétude se peignit sur le visage de Clément. « Pourquoi me demandes-tu cela » dit-il, « parce que tu me vois mieux vêtu ?»« Mais j'ai une place, je gagne ma vie. » Destroy l'en félicita cordialement. « Pouf !» fit Clément hochant la tête. « J'ai aussi de lourdes charges, une femme presque toujours malade, un enfant nourrice, de vieilles dettes à éteindre. »« Tu parles de femme malade ?» « Et d'enfant nourrice, » dit Max à la suite d'une pause, « serais-tu marié ?»«
Oui, » répondit Clément, « avec Rosalie. »«
Avec Rosalie !» s'écria Destroy qui semblait n'en pas croire ses oreilles.
Bah, « N'est-ce pas la chose du monde qui devrait le moins te surprendre ?» dit Clément avec calme.
« Oh, j'ai du reste à te conter des faits bien autrement curieux. Mais, » ajouta-t-il en regardant De Villiers avec des yeux où il y avait de la défiance et de la haine, « ce serait trop long, je n'ai pas le temps. Viens donc me voir un de ces jours où nous dînerons ensemble et nous causerons. Je suis certain aussi que Rosalie sera heureuse de te revoir. » Destroy affirma qu'il lui rendrait visite d'ici à une époque très prochaine. Clément lui indiqua son domicile et, quelques pas plus loin, lui serra la main et s'éloigna. À la suite de cette rencontre, Max et De Villiers arpentèrent quelque temps la promenade sans souffler mot. Pénétrés l'un et l'autre de la persuasion d'être d'une opinion essentiellement différente
sur le personnage avec lequel il venait de se rencontrer, il ne paraissait nullement jaloux d'avoir une discussion qui ne pouvait être que pénible. Mais, chose singulière, sans se parler, ils s'entendaient et se comprenaient parfaitement. Aussi, quand Max, par inadvertance, pensa tout haut et laissa échapper un mot de compassion sur Clément, la réplique de Devilliers ne se vit pas attendre. « À la bonne heure, » dit-il durement, « il vous reste à faire le panégyrique de ce misérable. »« Oh !» fit Détroit d'un ton de reproche. « Pas de talent et pas de conscience, » poursuivit Devilliers, « et par-dessus cela, de l'orgueil et de l'envie à gonfler sans poitrine. » Cet homme sans foi, sans idée, avec des appétits de brute, serait le plus grand des scélérats, n'était la crainte des lois. Oh, on peut te contredire, remarquit Max avec vivacité. Depuis ma liaison au collège avec lui, à part cette année et la précédente, je l'ai à peine perdu de vue. Je connais ses tentatives désespérées contre une misère innommable. Maître de lui-même à moins de 16 ans, sans famille et sans ressources, de tous ces états où l'apprentissage n'est pas rigoureusement nécessaire, je n'en sais aucun qu'il n'ait essayé. Il a été tour à tour pileur de bande dans un journal, correcteur d'épreuves, journaliste, homme de lettres, vaudevilliste, que sais-je. Un moment ne s'est-il pas résolu à étudier la pharmacie? Et à cet effet, n'est-il pas resté 6 mois chez un apothicaire? Enfin, ce que sans doute vous ignorez, il n'y a pas encore 18 mois, en sortant de l'hôpital, réduit au dénuement le plus horrible, couvert littéralement de haillons, impuissant à trouver un ami pitoyable obligé, en outre de pouvoir au besoin de cette Rosalie avec qui il vivait depuis 3 ans, il est entré, ce qui de sa part exigeait certainement plus que du courage, chez un agent de change à titre de garçon de bureau. Aussi, je le déclare, loin de lui jeter la pierre à cause de ses vices, suis-je prêt à m'étonner de ne pas le voir plus méprisable. « Allons donc, » répondit énergiquement Devilliers, « je préférerais en appeler à sa propre franchise. » Oubliez-vous donc qu'il a gâché les éléments de 10 avenirs, qu'il a été aimé plus que pas un de la fortune et des hommes? Du nombre considérable de personnes qui lui ont rendu de bons offices, citez-moi une seule, si vous pouvez, qui n'est pas aliénée, je ne dirais pas par ses idées et désordres, mais par l'indécence même de sa conduite vis-à-vis d'elle. N'est-il pas en outre parfaitement avéré qui n'a jamais recouru au travail qu'à l'heure où les dupes lui manquaient? Et ce n'est pas tout. Crevant d'égoïsme, de vanité, d'envie, de haine, incapable de rendre un réel service, n'ayant jamais eu d'amis que pour les exploiter, il ne suffit pas que sa vie n'ait été qu'une perpétuelle débauche des sens et de l'esprit. Il faut encore que, dépourvu absolument d'indulgence, excepté pour ses vices, il se soit incessamment montré le plus impitoyable critique des travers d'autrui. Après cela, qu'on déplore sa dépravation et qu'on en plaigne, passe encore, mais qu'on s'extasie en quelque sorte à ses mérites, cela m'exaspère. Vous ne tenez pas non plus à ces comptes des passions, les passions, mais nous en avons pour les combattre et non pour nous y abandonner, à l'instar des animaux. En définitive, reprit Max, qu'a-t-il fait, sinon ce que font, sur une moins vaste échelle, bien d'autres jeunes gens de notre génération? Combien ont en eux le germe des vices qui sont en fleurs chez lui et n'atteignent point à l'énormité de ses fautes uniquement parce qu'il leur manque sa force, son tempérament et son audace? Mais je suis de votre avis, dit brusquement Devilliers. « Votre Clément n'est pas le seul que j'ai en vue. Il est pour moi un type d'une actualité saisissante. Sans chercher plus loin, on pourrait dire qu'en lui sont vraiment concentrés et résumés les vices, les préjugés, le scepticisme, l'ignorance et l'esprit de ces bohèmes dont l'histoire superficielle semble suffire à l'ambition de votre ami Radolphe. 3. Sur la mort d'un agent de change. Le lendemain dans l'après-midi, Destrois descendit chez ses voisines avec quelques autres préoccupations que celles d'y faire simplement de la musique. En traversant l'antichambre, il aperçut par la porte entrebâillée d'une petite cuisine le vieux Frédéric qui attisait les charbons d'un fourneau. La mère et la fille accueillirent Max, comme elles faisaient toujours, avec un empressement affectueux. Il est à remarquer que celui-ci, dans sa conversation avec Rodolphe, avait singulièrement atténué la beauté surprenante de Madame Tillard. Peut-être avait-il craint que la vivacité de son enthousiasme n'inspirât quelque épigramme à son ami. Outre qu'elle était grande, pas trop cependant, et svelte, elle avait des épaules incomparables que le deuil faisait plus belles encore. Son visage ovale, d'une chaude pâleur, n'offrait, quoique d'une régularité parfaite, aucun de ces contours arrêtés, délicats, qui donnent aux figures anglaises quelque chose de si froid. Le modelé en était gras, doux, harmonieux, on n'eût pas découvert l'ombre d'un pli. Un regard de ses yeux noirs produisait l'effet d'un éclair. Quand elle souriait, l'ivoire légèrement doré de ses dents ne faisait point mal sur le rouge des lèvres un peu fortes. Il semblait qu'elle rougît de ses charmes, par exemple de sa chevelure brune, dont elle essayait, mais en vain, de dissimuler l'exubérance splendide. De ses mains blanches, coquettement enfouies sous des nuages de dentelle, des courbes gracieuses de son pied qui gardaient en jaloux les ombres de sa robe. Par-dessus cela, tout dans ses mouvements était souplesse et grâce, et du bout de son pied à l'extrémité de ses cheveux, les séductions ruisselaient vraiment de sa personne. Si, à la voir, le moins qu'on pût faire était de l'aimer, au son de sa voix musicale et sympathique, c'était miracle que cet amour n'alla pas jusqu'à l'adoration. L'autre femme, avec sa grave et belle figure, encadrée de boucles blanches, comparables à des flocons de soie, avec ses yeux d'où la bonté coulait comme d'une source, était bien la digne mère de Madame Tillard. D'un mot, Destrois faisait de Madame Ducornay un éloge auquel on ne peut rien ajouter. C'était, disait-il, une de ces rares femmes qui savent vieillir, une de celles qu'on voudrait pour mère quand on n'a plus la sienne. Madame Tillard s'assit au piano et Max accorda son violon. Ils jouèrent une des grandes sonates de Beethoven pour ces deux instruments. Destrois avait une manière large et une vigueur qui naturellement nuisait beaucoup au fini de son exécution. Mais il avait un mérite rare, celui de sentir et de s'identifier à ce point avec son violon qu'il semblait que l'instrument fît partie intégrante de lui-même. Bien que la façon tout exceptionnelle dont il interpréta l'andante marquât de ces tatillonnages prémédités qui mettent l'instrumentiste au niveau d'un batteleur de haut goût, il n'en fit pas moins sur Madame Tillard la plus vive impression. « Quelle magnifique chose !» s'écria-t-elle avec enthousiasme. L'âme de Max débordait de rêverie. « Oui, fit-il à mi-voix, cet homme est le vrai poète de notre époque. On jurerait qu'il a prévu nos déchirements et composé en vue de nos misères. J'imagine que, dans le principe, à côté du calme et profond Heine, il devait paraître singulièrement turbulent et ténébreux. Ses œuvres sont aujourd'hui une source inépuisable de consolation à la hauteur des calamités qui pèsent sur nous. Heureux qu'il les admire autrement que sur parole. Il l'a dit lui-même, celui qui sentira pleinement ma musique sera à tout jamais délivré des misères que les autres traînent après eux. Au moment où Madame Tillard et Destrois achevaient la sonate, le vieux Frédéric se trouvait là, et se disposait à sortir. C'était un petit homme maigre, entièrement chauve, toujours frais rasé, plein de verdeur encore, sur le visage duquel brillait ce que l'on peut appeler la passion du sacrifice. Max l'avait toujours vu en cravate blanche, avec la même redingote bleue à petit collet et le même pantalon gris souris. Il ne s'en alla pas qu'il n'eût jeté un coup d'œil à toute chose et n'eût pris humblement congé de la mère et de la fille. D'estroit, que brûlait l'envie de le questionner, le suivit de près et le joignit bientôt comme par hasard. Le bonhomme avait pour Max une prédilection marquée. Il fut visiblement enchanté de la circonstance. Promenant sa manche sur une tabatière ronde en buis qu'il tira de sa poche, il respira une forte pincée de tabac après en avoir offert à Destroy. Celui-ci, pour le faire jaser, usa d'ambages au moins inutiles. Frédéric, tout discret qu'il était, ne pouvait songer à taire les points essentiels d'une histoire que les journaux avaient colportée dans toute la France. D'un air navré, en termes amers, il en indiqua à grands traits les phases notables. Depuis nombre d'années déjà, il était au service de M. Ducornet, quand Tillal, encore imberbe, y était entré au titre le plus humble. Des dehors séduisants, de l'application, une précoce intelligence des affaires et notamment une souplesse d'esprit peu commune, lui avait rapidement concilié les bonnes grâces du patron. Et, tout entier à l'ambition d'exploiter cette bienveillance, il avait fait un chemin qui, vu le point de départ, dut le surprendre lui-même. En moins de 10 années, après en avoir employé la moitié au plus à conquérir la place de premier commis, il était devenu, sans posséder un sou vaillant, l'associé de M. Ducornet, puis son gendre, finalement son successeur. Jusque-là, il est vrai, rien n'était plus légitime. Mais comment devait-il en user et acquitter sa dette envers une famille qui, eu égard seulement au chiffre de sa fortune, pouvait exiger dans un gendre bien autre chose que du mérite? Son beau-père mourut. À observer l'effet de cette mort sur Tillard, on eût dit d'un homme qu'on débarrasse de chaînes pesantes à la suite d'une longue et dure réclusion. Toute la vertu de son passé n'était qu'une imperturbable hypocrisie. Actuellement, au plus mauvais instinct, à un égoïsme incommensurable, il fallait joindre une vanité sans contrepoids de parvenu et le vertige dont le frappait l'éclat d'une fortune inespérée. Sa femme et sa belle-mère, engouées de lui à en perdre toute clairvoyance, ne discontinuèrent pas d'être ses dupes et ses victimes. Elles furent les dernières à connaître ses désordres, et, hormis un luxe ruineux, elles crurent jusqu'à la fin n'avoir point de reproche à lui faire. Cependant, bien qu'il se montrât vis-à-vis d'elles toujours aussi empressé, toujours aussi jaloux de leur plaire, sa pensée s'éloignait de plus en plus de sa femme et de son intérieur. Entraîné par Gloriole au milieu de ses rentiers parasites, autour de qui rôdent des industriels de toutes sortes, comme font les requins autour d'un navire, il achetait le triste honneur de cette compagnie par un mépris de l'argent analogue à celui d'un homme qui n'est pas le fils de ses œuvres ou qu'il est devenu trop vite. En proie au jeu, à d'insatiables courtisanes, à une dissipation effrénée, bientôt à l'usure, quand, après 4 années de ses excès, l'embarras de ses affaires exigeait des mesures urgentes, énergiques, radicales, il achevait de compromettre irréparablement sa position en se jetant pieds et poings liés dans des spéculations hasardeuses. Enfin, aux défiances dont il était l'objet, à son crédit ébranlé, il n'était plus possible de prévoir comment, à moins d'un miracle, il parviendrait à conjurer sa ruine. « Je vous laisse à penser dans quelles anxiétés je vivais, continua Frédéric, qui, en cet endroit, plongea de nouveau les doigts dans sa tabatière. Notez que je me consolais un peu en songeant que Madame Ducorneil, sa fille, quoi qu'il arrivât, aurait toujours les ressources de leur avoir personnel. Mais qu'est-ce que je devins donc quand je m'aperçus que Monsieur Tillard, qui probablement combinait déjà sa fuite, fondait des espérances sur sa femme et sur sa belle-mère, et ne préméditait rien moins que de les dépouiller toutes deux. Ah, je fus pire qu'un diable. 30 années passées dans la maison me donnaient bien d'ailleurs quelques droits. Hors de moi, je jurais à Madame Ducorneil et à sa fille que M. Tillard avait creusé un abîme que des millions ne combleraient pas, et je les suppliais à main jointe de prendre pitié d'elle-même. Mais oui, qu'est-ce que je pouvais peser, moi, vieux radoteur, à côté d'un homme jeune, beau, garçon, brillant, spirituel, qui était adoré de sa femme, à laquelle il faisait accroire ce qu'il voulait. Il joua auprès d'elle sa comédie d'habitude, eut l'air de l'aimer plus que jamais, et finalement arracha à l'aveugle faiblesse des deux femmes les signatures dont il avait besoin. « Oh, quel misérable !» dit Max indigné. « Oui, misérable en effet !» ajouta le vieillard en secouant la tête. « Et plus que vous ne pensez !» Aussi, il avait trop d'avantages superficiels pour ne pas être mauvais, au fond. Un homme ne peut pas tout savoir, que diable. Je n'avais pas attendu jusqu'à ce jour pour reconnaître qu'il manquait absolument de cœur. Il sortait de parents extrêmement pauvres, qui s'étaient imposé les plus dures privations pour lui faire apprendre quelque chose. Eh bien, il en rougissait, il les reniait. Il les consignait à sa porte et les laissait dans la misère. Le malheureux semblait n'avoir d'autre vocation que celle de prendre en haine ce qui lui avait fait du bien ou l'aimait. Comment expliquer autrement qu'il délaissa Madame Tillard, la beauté, l'amour, le dévouement en personne, pour de malhonnêtes femmes, souvent laides, quelquefois vieilles, toujours dégoûtantes par leurs mœurs, qui le volait, le ruinait et se moquait de lui. Mais, dit Max tout à coup, où un pareil homme a-t-il pris le courage de se tuer? Frédéric s'arrêta et regarda Destrois avec étonnement. C'est une question que je me suis adressée plus d'une fois, fit-il en se croisant les bras. Il remarcha et poursuivit. Sans compter que ce qu'on a trouvé dans son portefeuille était bien peu de choses par rapport aux sommes qu'il venait de recevoir. Il m'est singulièrement difficile d'admettre, du caractère dont je le connaissais, que le remords se soit emparé de lui. Au total, je ne m'en cache pas, ce suicide n'a cessé d'être pour moi un problème. Il y avait moins de crainte que de surprise et de curiosité dans l'air dont Destrois s'écria aussitôt. Est-ce que vous croiriez? Non, non, répéta le vieillard d'un air pensif. D'ailleurs, la justice, qui a de meilleurs yeux que les miens, n'a rien vu de louche dans cette mort. Au surplus, ajouta Max, sa fuite ou sa mort, c'était tout un. Madame Tillard et sa mère n'en étaient pas moins irrévocablement ruinées. « Évidemment, répliqua Frédéric sur le point de quitter Destrois. Et voyez-vous ? » Ici, il prit un air capable et respira voluptueusement une énorme prise. « Quand je songe à tout cela, je suis tenté de me demander ce que fait le bon Dieu là-haut. » 4. Intérieur de Clément. Clément occupait dans une vieille maison située rue du Cherche-Midi un appartement au troisième. L'ameublement, simple et propre, offrait dans la forme et les couleurs cette disparité des meubles achetés d'occasion chez divers marchands. On y avait évité avec soin tout ce qui était susceptible d'éveiller la tristesse. Aux murs et aux fenêtres, des pièces élevées du logement, remplies de lumière, étaient un papier et des rideaux d'une nuance claire, semés de grosses fleurs rouges, vertes et bleues. Une vieille femme vint ouvrir. Avant que Max n'eût parlé, elle dit « Oh, monsieur n'est pas là !» Mais Clément, qui sans doute d'un observatoire secret avait reconnu son ami, apparut au moment où celui-ci descendait l'escalier et le rappela. « Viens par ici !» lui dit-il en l'entraînant à travers plusieurs chambres. « Nous serons plus tranquilles. Ma femme garde le lit. On a dû la séparer de son enfant, puisqu'elle ne peut nourrir et elle est très souffrante. Tu la verras une autre fois. » Ils furent bientôt installés dans une petite pièce qui rappelait un cabinet d'homme d'affaires, à cause d'une bibliothèque en acajou comblée de livres à relire uniformes, d'un grand casier dont la double pile de carton vert était séparée par des registres armés de métal poli, et d'un bureau devant lequel s'ouvraient les bras circulaires d'un fauteuil recouvert de cuir rouge. Tu n'as pas d'idée, au moins, dit Clément à son ami. Nous dînerons ensemble, ajouta-t-il en tirant de toute sa force le cordon d'une sonnette. La vieille femme accourut. Marguerite, cria Clément, qui accompagna ces paroles d'une pantomime expressive, vous dresserez la table ici, vous mettrez deux couverts. Oh, ne fais pas attention, dit-il ensuite à Destroit, dont le visage accusait de la surprise et des préoccupations. La pauvre vieille est presque sourde. Je l'avais deviné à son air, repartit Max. Ce n'est pas pour t'entendre élever la voix que je suis étonné. À te parler franchement, depuis mon entrée ici, je ne remarque que des choses qui me confondent. Qu'est-ce donc qui t'étonne donc tant ? Demanda Clément. Comment ? Fit l'histoire. Mais quand on t'a vu, comme je t'ai vu pendant 10 ans, vivre au jour la journée, changer d'hôtel tous les 15 jours, prendre racine dans les bals, te railler infatigablement de la vie bourgeoise, tu ne veux pas que je m'étonne de te trouver marié, père de famille, travaillant, économisant, vivant au coin de ton feu, ni plus ni moins qu'un notaire ou qu'un sous-préfet ? « C'est précisément parce que j'ai vécu ainsi, dit Clément avec assez de raison, que tu n'aurais pas t'étonner de me voir vivre d'une autre manière. » Crois au moins, s'empressa d'ajouter Max, que ma surprise n'a rien de désobligeant pour toi. Elle éclate au contraire du plaisir que j'éprouve à te rencontrer tout autre. Certes, je t'aime mieux ici que dans cette horrible bouge de la rue Saint-Louis en Lille, où je t'ai vu avec Rosalie l'avant-dernier automne, je crois. » Le tressaillement qui agita les nerfs de Clément attesta que Max venait de lui rappeler un souvenir extrêmement pénible. « À moins que tu n'en veuilles à notre repos, dit-il d'un air tout assombri, tu ne parleras jamais, surtout devant ma femme, de ce temps funeste. Tu te feras également plaisir en cessant de t'extasier à notre position nouvelle. Tu seras peut-être tout le premier à l'estimer bien modeste quand je t'en aurai détaillé l'origine. Outre que j'ai dû me plier à des pratiques honteuses, que de temps il m'a fallu pour parvenir où j'en suis. Cela ne paraît pas, mais l'état médiocre où tu me vois, si précaire encore, et pourtant la résultante d'une lutte quotidienne de 2 années au moins, car il est bien autant que je ne t'ai pas aperçu. « Oh, pas tant !» dit Destroit. « Oh, au reste, mes livres font foi !» dit Clément. « Ah, tu tiens aussi des livres ?»« Certainement !» repartit Clément, dont le visage brilla de satisfaction. « Et un journal !» Depuis le moment où j'ai eu cette idée, je puis rendre compte non seulement de ce que j'ai reçu et dépensé à un centime près, mais encore de chacun de mes jours, heure par heure, minute par minute. Je veux te montrer cela. Il se leva en effet et alla à son casier.
Oh, ce n'est pas la peine, disait Max, il me suffit de te savoir plus heureux.
Clément insista. Si, si, répéta-t-il en posant un des registres du casier sur son bureau. Tu pourras toi-même en tirer quelque enseignement.
D'ailleurs, il est bon que tu aies de quoi répondre à ceux qui feraient des commentaires sur moi.
Quel commentaire veux-tu qu'on fasse?
Oh, que sais-je, moi, fit Clément d'un air ambigu. J'ai tant d'ennemis.
Que je suis de la police, par exemple.
Quoique Destrois se déclarât incapable de voir clair dans les livres de compte, Clément lui mit le registre sous les yeux et l'obligea à l'examiner.
Tu t'abuses, lui dit-il, les chiffres ne sont pas si diables qu'ils sont noirs. Il n'y a rien là au-dessus de l'intelligence d'un enfant. Voici la colonne des recettes, puis celle des dépenses. Je te fais grâce des détails de celle-ci, cela est pour moi. Mais tu peux jeter un coup d'œil sur les recettes. La liste n'en est pas longue. Tu auras bientôt fait.
Les trois premiers mois, je n'ai pas touché d'autre argent que celui de ma place. Regarde. Janvier, 100 francs. Février, mars, 100 francs. 300 francs. Le trimestre suivant, outre une augmentation de 25 francs par mois, 6, 375 francs. J'ai rédigé, à la prière d'un bottier catholique, une brochure sur l'art de se chausser commodément et modestement, qui m'a été payée 500 francs. Si, 500 francs. Ce petit livre n'a pas paru, que je sache. Il ne paraîtra peut-être jamais, peu m'importe. Il est du reste convenu que mon nom n'y figurera pas. Au troisième trimestre, sans travailler davantage, au lieu de 125 francs par mois, j'en émargeais 150. Or, si je ne me trompe, pendant un an que cela dure, ce qui fait au total une somme de 1800 francs. Si, 1800 francs. Dans l'intervalle, j'ai exécuté divers travaux, entre autres pour une librairie religieuse, des petits livres de piété, des contes pour les enfants, des histoires de saints. Le tout, ma foi, s'est bien payé. Jugez-en, 6 900 francs. J'ai encore publié à mon compte l'Almanach des dévots, qui m'a rapporté net 200 francs, 6 200 francs. J'ajouterai que le duc de L, séduit par ma belle écriture que tu connais, m'a donné à faire la copie d'un manuscrit de 150 pages, à raison de 1 franc par page, ce qui fait juste 150 francs, 6 150 francs. Enfin, tout récemment, j'ai reçu du ministère de l'Intérieur, au bureau des secours généraux, car je ne suis pas fier, une somme de 100 francs, 600 francs.
Somme toute, tu le vois, continua Clément en faisant jouer avec complaisance les feuillets du registre, j'ai énormément travaillé et gagné beaucoup d'argent. Par malheur, eu égard aux choses dont nous avions besoin, tels que linge, habits, meubles, vaisselle et le reste, ça a été un gain de 1000, un grain de 1000 dans une gueule d'âne. La grossesse de Rosalie, qui est venue ensuite, a occasionné forcément un surcroît de dépenses. Je ne me rappelle pas sans frémir qu'au moment des couches, il n'y avait pas un sou à la maison, et je me demande encore où j'ai trouvé des forces et les ressources pour doubler ce cap terrible. Quoi que j'en eusse, il a bien fallu faire de nouvelles dettes et escompter encore une fois l'avenir. Ce n'est heureusement qu'une jeune momentanée, dont le terme est même très prochain. Tel que tu me vois, je suis résolu à faire de l'industrie. J'ai déjà sur le chantier une dizaine d'affaires très belles. C'est étrange, n'est-ce pas, mais j'ai pris goût au bien-être, je me suis affolé de considération, et il me semble que je n'aurai jamais assez ni de l'un ni de l'autre. Je prétends payer peu à peu intégralement mes vieilles dettes, vivre dans l'aisance et devenir un parfait honnête homme, selon le monde. C'est si simple. Pour commencer,
J'espère qu'avant peu tu me verras mieux logé dans un quartier moins triste. Je veux avoir de beaux meubles, acheter un piano et faire apprendre la musique à cette pauvre Rosalie qui s'ennuie à périr. Nous verrons. » Tout en disant cela, Clément inclinait vers la terre un front chargé de rêveries funèbres, ce qui était au moins l'aveu d'une satisfaction bornée. Quant au fait qu'il venait d'égrener complaisamment, il s'était appuyé de preuves si catégoriques que l'authenticité n'en pouvait être mise en doute. Aussi, Max ne se préoccupait-il que de connaître le prix auquel Clément avait obtenu une aussi belle place et tant de travaux lucratifs par-dessus le marché. « Voilà où je t'attendais !» s'écria tout à coup ce dernier en se levant. Il ferma son registre et le remit en place. À la vue du dîner qui était servi, « Mais, dit-il avec une inflexion de voix plus calme, mettons-nous à table, nous causerons tout aussi bien en mangeant. » Il ajouta d'un air profondément ironique, « D'ailleurs, m'est avis qu'il te faut des forces, en prévision des faiblesses, que pourra te causer le récit de mes turpitudes préméditées, formellement voulues. » Ils n'étaient pas assis depuis 5 minutes l'un devant l'autre et n'avaient pas mangé 3 bouchées que la vieille sourde entra à l'improviste. Clément, qui lui avait fait comprendre qu'on n'avait plus besoin d'elle, la regarda avec colère. « Qu'est-ce qu'il y a ? » lui cria-t-il brutalement. « Madame Rosalie vous demande, » répondit la vieille femme. « Ah ! » fit Clément avec des marques d'impatience et de mauvaise humeur. « Cette diablesse de Rosalie est insupportable. Elle ne peut pas rester un moment seule. Il faut toujours que je sois là. » Cependant, il s'excusa auprès de son ami et suivit la vieille Marguerite. D'Estrois ne savait que penser de tout cela. Quoiqu'il n'eût sous les yeux que des objets capables d'égayer l'esprit, il n'en sentait pas moins des bouffées de tristesse l'oppresser, à peu près comme dans une étincelante et joyeuse cuisine, la fumée âcre des viandes grillées vous prend à la gorge et vous étouffe. Clément ne tarda pas à revenir. « Ah, maintenant, dit-il, nous ne serons plus dérangés. Je lui ai fait prendre un peu d'opium. » Qu'avait-elle ? Demanda Max. Oh, ce que je sais, fit Clément en haussant les épaules. Elle ne pouvait pas dormir, elle rêvait les yeux ouverts. Laissons cela. Revenons à ce que je te disais.
5. Ses confidences. Après avoir mangé quelque temps en silence, il poursuivit. Le titre seul de mes travaux te stupéfie et tu te demandes ce que j'ai fait pour les avoir. Oh, rien que de facile. Du moment où l'on se décide à ne reculer devant aucune énormité, on ne saurait manquer de réussir. Rappelle-toi en quelles circonstances j'avais accepté la place que j'occupais il y a 2 ans. Je sortais de maladie, j'étais exténué, affreux à voir. En plein hiver, par un froid rigoureux, outre que j'étais sans linge, j'avais un pantalon de toile, des souliers informes, un chapeau gris digne du reste. Pour avoir spéculé incessamment sur l'obligeance d'autrui, je ne trouvais plus que des gens impitoyables jusqu'à la férocité. D'ailleurs, les hommes sont comme les chiens, les haillons les offusquent. Je n'inspirais pas moins de peur que de mépris. Il fallait bien, puisque je tenais encore à vivre, usé de l'unique ressource que m'offrait le hasard. Mais la fureur me fouettait par instant comme eût fait le supplice du clout. Sans balancer, j'eusse à l'occasion commis un crime. Un dernier désastre acheva de m'exaspérer. Le patron, chez lequel depuis 3 mois, moyennant 60 francs par mois et un logement infect, je balayais les bureaux et faisais les courses, disparut tout à coup. Il ne se bornait pas à dépouiller ses clients, à ruiner sa famille, il emportait jusqu'aux appointements de ses commis, jusqu'aux gages de ses domestiques.
Le désespoir qui s'empara de Rosalie et de moi à cette nouvelle ne peut pas se rendre. Les 60 francs que nous volait cet homme représentaient 30 jours de notre vie. Nous ne nous étions certainement pas encore trouvés dans une position aussi effroyable. Il ne paraissait pas cette fois que nous puissions jamais sortir de cet abîme. Aussi, fatigués d'une lutte stérile, à bout de patience, passâmes-nous la nuit entière à mûrir sérieusement un projet de suicide. Le courage de mourir était de la faiblesse à côté de celui qui était nécessaire pour continuer de vivre ainsi, et à coup sûr nous eussions exécuté notre résolution si au matin, heureusement ou malheureusement, un souvenir ne m'avait subitement traversé l'esprit. Les propres paroles de Clément n'ajouteraient rien à l'intérêt de ce qu'il conta. Quelques 6 mois auparavant, en un jour où précisément il était habillé de neuf, il avait fait la connaissance d'un prêtre. Cela du reste bien à son insu. Par surprise bien plus que par suite d'un goût naturel, car il n'avait que médiocrement à boire, il s'était graduellement enivré dans une réunion de femmes et d'hommes. Accablé de chaleur, les nerfs agités, aux prises avec le besoin de respirer et d'agir, il se glissa furtivement dehors. Le grand air accrut son ivresse, il faisait nuit. L'œil trouble, incapable de joindre deux idées, heurtant les passants et les murs, manquant à chaque pas de rouler à terre, il arriva, sans savoir comment, sur la place Saint-Sulpice, et décidément trahi par ses forces, alla d'oscillation en oscillation, s'affaisser au pied de la grille du séminaire. Il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé depuis ce moment, jusqu'à celui où il avait rouvert les yeux. Il s'était trouvé renversé sur une chaise dans une salle nue. Quelqu'un rafraîchissait ses tempes avec de l'eau froide. À la lueur d'une lampe, il aperçut un prêtre, lequel lui demanda avec sollicitude « Eh bien, monsieur, vous sentez-vous mieux actuellement ?» Clément était stupéfait. « Mais comment est-ce que je me trouve ici ? » s'écria-t-il. « Comme je rentrais, répliqua l'ecclésiastique d'une voix pleine de sensibilité, vous gisiez à terre, contre la porte, et je me suis permis de vous faire transporter en cet endroit pour vous y donner des soins. » C'était bien le moins que Clément se montra aimable envers un homme qui lui avait épargné l'ennui d'être ramassé dans la rue et probablement transporté dans un poste. Il répondit donc avec assez de politesse aux questions du prêtre sur la position qu'il occupait dans le monde. Il avoua qu'il était homme de lettres par nécessité, puis qu'il eût de préférence étudié les sciences naturelles s'il lui eût été permis de suivre ses goûts. Il se trouvait que l'abbé s'était jadis occupé discrètement de physique et d'entomologie. De cette sympathie pour les mêmes choses dont ils parlèrent en courant, il résulta bientôt entre eux de l'aisance et une certaine intimité. Clément, avec une franchise qui frisait la brutalité, ne lui en déclara pas moins qu'il ne croyait à rien et qu'il était bien prêt de penser que la grande majorité des prêtres ne croyaient pas à grand-chose. L'abbé ne sut que sourire à ses aveux. Il ne s'en cachait pas, Clément lui plaisait beaucoup, et il assurait qu'il serait très heureux de le revoir. « Il se peut, dit-il de l'air le plus riant, qu'au milieu de votre vie un peu aventureuse, vous ayez besoin à un moment donné d'un conseil, et qui sait, peut-être aussi d'une recommandation. Souvenez-vous alors que j'ai quelques crédits, et venez mettre mon amitié à l'épreuve. » Il dit encore, tout en regrettant que votre belle intelligence se noie dans des futilités, n'allez pas croire que j'agisse dans des buts d'intérêt et que je me propose sournoisement de vous persécuter avec des sermons. Vous n'aurez jamais à craindre auprès de moi rien de semblable. » Clément, pour la forme, prit le nom du prêtre. qui n'avait pas éprouvé à le voir ces élans de mépris et de haine qu'une soutane manquait rarement de soulever dans sa poitrine. Cependant, il ne l'eut pas plutôt quitté qu'il n'y pensa plus. Mais au moment d'attenter à sa vie, à l'heure où il cherchait quelque chose à quoi s'accrocher, il était naturel qu'il se souvînt de ce prêtre et de ses offres de service. À tout hasard, il résolut de l'aller voir. Sans fonder grand espoir sur cette démarche, il songeait qu'au cas où elle ne produirait rien, elle n'ajouterait non plus rien au mal. Au préalable, il concerta avec lui-même un plan de conduite et se décida à jouer une audacieuse comédie. Ce qui n'est point rare, d'une visite répugnante d'où il attendait peu de choses, il retira les plus grands avantages. L'abbé Frépillon le reconnut sur le champ et lui fit le plus grand accueil. « Oh, je crains bien, lui dit Clément tout d'abord, que le dénouement où je me trouve ne vous fasse suspecter la sincérité de mes déclarations. » À la suite des dénégations obligeantes du prêtre, il lui confessa qu'il avait horreur de sa vie passée. Cette horreur était telle qu'il avait été sur le point d'en finir avec l'existence, et le souvenir de l'abbé l'avait retenu. « Je ne vous cache pas, continua-t-il, qu'à votre égard, je ne suis qu'un noyé qui s'attache à une branche quelconque. Il ne fallait rien moins que ma passion de vivre pour me rappeler votre nom et le désir que vous avez exprimé de m'être utile. Je viens donc vous imposer quoi que ce soit. Je vous ferai seulement remarquer que la conversion éclatante d'un débauché de ma sorte pourrait être d'un bon exemple. » Le digne prêtre répliqua qu'il l'eût obligé quand même, que néanmoins il était heureux de le voir dans ce train d'idées. Clément lui dépeignit catégoriquement sa misère. L'abbé s'empressa de dire « Je partagerai de grand cœur avec vous ce que je possède. Je voudrais être plus riche, mais je m'engage à ne pas me reposer que je ne vous ai trouvé des protections efficaces. » Je serais bien surpris si je ne vous avais bientôt casé convenablement. » Après un petit sermon fort doux, qui roulait sur la persévérance, et dont la conclusion était qu'il fallait se confesser le plus promptement possible, il lui remit 60 francs et le congédia en l'invitant à revenir dans quelques jours. Clément s'en alla, ressaisi par l'espérance. Il avait rencontré un homme naïf et réellement charitable, dont la crédulité était facile à exploiter. Selon ses propres expressions, malgré sa soutane, l'abbé Frébillon était un brave homme, un imbécile. Clément, en homme habile, s'était gardé d'omettre qu'il vivait avec une femme à laquelle il était fort attaché et qu'il s'agissait d'une double conversion. Peu après, l'abbé Frépillon lui remit un nouveau secours en argent et lui annonça qu'il l'avait chaudement recommandé à divers personnages, notamment au duc de L et au président de la société de Saint-François-Régis. Pendant ce temps-là, Rosalie et Clément, se faisant violence, le mépris et le dégoût au cœur, ce sont les termes de Clément, s'agenouillaient dans un confessionnal, recevait l'absolution et communiait. Il suivait régulièrement les offices, choisissait à l'église les places les mieux éclairées et s'y faisait remarquer par une attitude humble et repentante. Ils ne tardèrent pas à toucher la monnaie de leur hypocrisie. Leur confesseur commun les pressa bientôt de régulariser leur position en faisant sanctifier leur commerce par l'Église, et leur insinua même qu'on n'attendait que cet acte de soumission pour assurer leur avenir. Ils consentirent volontiers à un mariage qui était déjà dans leur pensée. La société de Saint-François-Régis, fondée en prévision du pauvre qui consent à faire sa femme de sa maîtresse, leur vint en aide comme elle fait pour d'honnêtes ouvriers. Elle se chargea naturellement de tous les frais, et leur fournit en outre, par une faveur spéciale, du linge, des habits
quelques avances en argent et un mobilier modeste. Ce n'est pas tout. Clément n'était pas marié depuis 8 jours, qu'il reçut une lettre par laquelle le président de cette même société l'avertissait qu'il était chargé de lui offrir, en attendant mieux, une petite place actuellement vacante dans les bureaux de l'administration. Clément accepta. La persistance avec laquelle il soutint son rôle lui valut de nouvelles faveurs. Il lui fut permis dès lors d'espérer, sinon la fortune, du moins prochainement, une aisance convenable. Tous ces faits étaient consignés scrupuleusement sur son journal qu'il comptait léguer en cas de mort à son ami Max, qui pourrait y puiser les éléments d'un roman curieux. Clément avouait encore que le fait seul de se démasquer en présence d'un ami lui procurait un bonheur qui approchait de la volupté. Il était capable de tout et cependant, mentir lui causait un supplice presque intolérable. Son mépris pour les croyances qu'on lui attribuait ne pouvait se comparer qu'à l'horreur secrète avec laquelle il se prêtait à des cérémonies qu'il jugeait ridicules. À présent, au moins, au cas où son assiduité dans les églises s'ébruiterait, en songeant qu'il n'était plus seul à apprécier la valeur de sa conversion dérisoire. « Mais, dit-il tout à coup, ce n'est pas là où j'en voulais venir. » 6. Son portrait en pied. Il prit en cet endroit un ton plus décidé. « Tu es convaincu, toi, fit-il, que nous naissons avec le sentiment du bien et du mal, qu'il est un dieu, une providence. Tu es la proie, en un mot, de toutes ces inepties hyperphysiques à l'aide desquelles on exploite les niais. Que ne puis-je t'arracher de désastreuses illusions et te soustraire du nombre des dupes? Regarde-moi. C'est ma jouissance et mon orgueil. Outre que je suis une négation vivante, agissante et prospère de ces croyances et de ces préjugés, fut-il jamais exemple plus éclatant du triomphe de l'ignominie habile sur ce qu'on appelle honnêteté, droiture, vertu? » Il s'arrêta d'un air interrogeant et continua bientôt avec une animation croissante. « Tu m'as dit quelquefois que j'étais meilleur que je ne me faisais. Oh, c'est me connaître mal. Je ne suis pas un fanfaron de vice, non, certes. Aussi peux-tu me croire quand j'affirme que, si mauvaise que soit ma réputation, je vaux encore 1000 fois moins qu'elle. » En passant la revue de tous ces actes, qualifiés crimes par les hommes, je serais en peine d'en trouver un que je n'ai pas commis. Mon orgueil et mon égoïsme sont sans bornes. Je sacrifierais à l'occasion le monde entier à la moindre de mes fantaisies. J'ai été beaucoup aimé, et je n'ai jamais aimé personne. Pendant nombre d'années, je n'ai vécu que de dettes. J'en faisais d'autant plus volontiers que je ne pensais pouvoir les payer jamais. J'ai puisé sans scrupule dans la bourse de mes amis, et je ne puis pas dire que je ne me sois jamais employé efficacement pour aucun d'eux. J'ai fait plus. Je les ai diffamés dès qu'ils ne pouvaient plus ou ne voulaient plus me rendre service. Enfin, non content d'exploiter, de duper sciemment tous les gens que j'ai trouvés sur mon chemin, je me suis complu dans les plus ignobles débauches. Je me suis roulé complaisamment dans la fange. Je n'ai pas même reculé devant l'infamie de vivre aux dépens de plusieurs femmes. » Et en cet instant, sous l'empire d'une exaltation à chaque instant plus vive, il se leva et arpenta son cabinet à grands pas. « L'idée de Dieu, poursuivit-il, n'a pas une seule fois été émise devant moi, que je n'ai sur le champ proféré un blasphème. Je l'ai maudit, défié. Ce Dieu, oh, j'eusse voulu croire à son existence, afin d'être convaincu qu'il entendait ses blasphèmes et ses provocations. J'ai souhaité de revenir au temps où l'on vendait son âme. Regarde-moi. » Debout devant Max, les bras croisés sur la poitrine, le visage livide, les traits contractés, l'impudence sur le front, Clément faisait peur à voir.
il ajouta « Moi, pétri d'iniquité, gâté jusqu'à la moelle, chargé de souillure, moi, dont chaque molécule est un vice, moi plus criminel que pas un de ceux qu'on livre aux bourreaux et qu'on jette dans les prisons, il m'a suffi de prendre un rôle ignoble, de simuler des sentiments que j'exècre, de consentir à être plus infâme que je n'étais, pour passer de la misère à l'aisance, pour conquérir la sécurité, pour être heureux. » Destois exprimait des doutes en branlant la tête d'un air plein de tristesse. « Oh, je pourrais être soumis aux douleurs physiques, » dit encore Clément. « Quant aux douleurs morales, je n'en veux point avoir et je n'en aurai point. Je serai heureux, moi le plus indigne des hommes, au point de vue social, pendant que toi, pauvre Maximilien, aussi honnête que je le suis peu, tu vis et vivras misérable, déchiré de mille supplices, humilié, insulté et calomnié par des gens de mon espèce. » Ce qui était contradictoire, il disait « Je serai heureux » de la manière dont on dit « Ah, que je souffre !» Max ne lui en fit pas moins remarquer que son bonheur d'aujourd'hui, fût-il réel et profond, ne lui permettait d'aucune façon de préjuger celui de l'avenir. « Ce que je tiens, s'écria Clément, il n'est pas de puissance humaine qui puisse faire que je m'en dessaisisse. Quant aux idées qui prétendraient me troubler intérieurement, j'en connais trop bien la source artificielle pour manquer jamais de la force et de les fouler aux pieds. Craindrais-je les hommes? Rien n'est plus facile que de leur en imposer. Je mentirais effrontément en leur présence. Je me montrerai à eux tel qu'ils veulent que je sois, et j'aurai leur considération. Es-tu donc aussi assuré contre l'impuissance de vivre avec toi-même ? Demanda Destoir. Après, fit Clément, ben je serai toujours le maître de mettre un terme à une vie insupportable. Là, de jouissance ou d'ennui, ben j'embrasserai la mort, je me plongerai dans le néant. Je m'endormirai d'un sommeil éternel. Qu'en sais-tu ? Dit Max avec commisération. Un dieu ne saurait être, répliqua Clément d'un ton de véhémence indicible. D'où sortirait-il ? Pourquoi serait-il plutôt dieu que moi ? D'ailleurs, ce dieu qui connaîtrait le passé et l'avenir, qui embrasserait absolument toute chose d'un coup d'œil, pour lequel il ne saurait y avoir ni joie, ni peine, ni imprévu, serait saisi d'un ennui incommensurable et mourrait de son éternité même. Destoir, qui savait par cœur ces tristes arguments, ne connaissait rien de plus affligeant que de discuter avec des hommes capables de s'y arrêter. Ils traitent de vision, disait-il, tous les élans de l'âme, et soumettent leur esprit au joug du plus vulgaire bon sens. Ils ont bientôt fait de trouver qu'il n'y a rien en dehors d'eux, que ce qu'ils ne conçoivent pas ne saurait exister, et que, partant, l'inconnu est leur égal, de ne croire enfin qu'à ce qu'ils touchent, et de s'écrier « Dieu n'est pas !» parce que dans l'étroitesse de leur cerveau, il ne saurait concevoir comment il peut être. « La douleur me fera nier éternellement Dieu !» s'écria Clément au paroxysme de l'exaltation. « Je te le déclare, je ne serai condamné qu'à souffrir 15 jours d'un petit caillou dans mon soulier, que je dirai opiniâtrement « Non, il n'est pas !»« Je ne saisis pas le rapport, » dit Max. « En quoi la douleur implique-t-elle la non-existence d'un Dieu ?» C'est parler comme une harangère. Si Dieu existait, souffrirait-il cela? La douleur existe, c'est un fait. Reste à savoir si, essentiellement, elle est un bien ou si elle est un mal, pourquoi elle existe et à quoi elle sert. Quant à moi, je l'avoue, sans elle, je me rends compte de la possibilité d'aucune existence. Elle est la force de cohésion qui soude l'un à l'autre les atomes de la matière. Elle est le souffle, l'âme, la conservatrice, non pas seulement de tout ce qui vit, mais encore de tout ce qui végète. Sans elle, ces myriades de trompes capillaires par où l'arbre aspire la sève deviennent inertes et l'arbre périt. Sans elle, la fleur oublie de tourner son calice au vent chargé de pollen et se dessèche dans la stérilité. Son action sur nous est encore plus saisissante. Langue, art, science, industrie, elle est l'origine, la source de toutes les merveilles que l'homme doit aux hommes. Elle est l'aiguillon infatigable qui nous inquiète dans l'inaction et nous jette dans le chemin de la perfectibilité. Elle nous féconde, elle est la mère des grandes pensées et des grandes actions. Beaucoup de ceux qui sont grands parmi les hommes sont fils de la douleur, à ce point qu'on pourrait dire « Celui-là sera le plus grand parmi vous qui aura le plus souffert. » Aussi les gens de bonne volonté, qui, pleins d'enthousiasme, se sont levés avec l'ambition de soustraire l'homme à la douleur, outre qu'ils ont échoué devant l'impossible, me semble-t-il, si grand qu'ait été leur déni avoir prouvé plus de sentiment que de pénétration. « Oh, c'est trop fort !» s'écria Clément avec une sorte de fureur. « Mais comment ? Tu t'estimes heureux de souffrir ? Comment un désir légitime que tu ne peux contenter te réjouit ? Comment les préventions ineptes sous lesquelles tu succombes te remplissent de joie ?»« Le cheval qu'on éprône, répliqua d'estoie, ou qu'on cingle avec un fouet, n'est pas heureux, mais il va plus vite. Combien de fois ne me suis-je pas écrié, « Oh, mes amis !» À force de me dédaigner, de ne me compter pour rien, de me juger à tort et à travers, vous me contraindrez à faire des chefs-d'œuvre. N'allons pas plus loin, fit Clément hors de lui. Le sang bout dans mes veines. Je ne sais à quoi l'exaspération pourrait me porter. Si tu n'étais pas mon ami, oh, je t'aurais déjà broyé dans mes mains. Comment veux-tu qu'en présence d'aussi révoltantes opinions, je ne crie pas de toutes mes forces « Je suis athée !» Tu crois l'être. Aurais-tu la prétention de voir plus clair en moi que moi-même ? Oui, certes. Car tu rappelles une lanterne sourde devant laquelle on a tiré le volet. Celui-là même qui la porte ne peut pas voir la lumière qui y est dedans. Ma conviction est telle, continua Clément, que je suis prêt à en tirer toutes les conséquences possibles. Il n'est au monde de respectable et de désirable que l'argent. Et il n'est d'obstacle pour s'en procurer que la loi qu'il faut défendre jusqu'au jour où on peut la violer impunément. Le reste n'est que préjugé. Oui, oui, je l'atteste. Demain, je pourrais sans encourir de peine prendre 1 million dans la caisse d'un banquier, que je le ferais sans balancer. Mais que ne mets-tu tout de suite un meurtre à la place d'un vol ? Fit d'estroit, croyant lui causer de l'embarras. Clément hésita en effet, mais son audace eut promptement le dessus, avec une énergie sourde. « Si un assassinat pouvait m'enrichir, dit-il, et que l'impunité me fût assurée, pourquoi ne le ferais-je pas ?» Max, par ses gestes, marquait la plus profonde incrédulité. « Je m'obstine, dit-il avec l'accent de la conviction, à ne voir là que de monstrueuses fanfaronnades. On s'enivre avec des idées comme avec du vin, et tu es à ce degré d'ivresse où l'on ne se connaît plus. Tu tiens toujours, à ce qu'il paraît, dit Clément, dont la chaleur de tête se tempéra tout à coup pour redescendre à la glace, à ce que je sois moins mauvais que je ne le prétends. Garde ton illusion. Mon désir de te l'enveler ne va pas précisément jusqu'à me commander des aveux plus complets. Sache seulement, pour ta gouverne, que mon scepticisme est d'autant plus inébranlable que mon repos en dépend et que, de par ma seule volonté, tes plus solides preuves n'auront jamais à mes yeux même l'importance des huiles de savon. » D'estoie regarda Clément avec surprise. Il se défendit d'avoir voulu prouver quelque chose. Il était d'avis qu'en métaphysique, on ne prouve rien, ou mieux, qu'on prouve tout ce qu'on veut, le pour et le contre avec une égale force, et que le simple sentiment remporte souvent sur 1000 preuves rationnelles. « Au lieu de discuter avec toi, ajouta-t-il, j'eusse mieux fait de me borner à une simple observation. Si notre penchant nous porte à mal faire, notre intérêt nous commande de bien agir. À un moment donné de notre vie, cela est infaillible. De la somme de nos actions découle pour nous une moyenne de joie ou de peine en rapport rigoureux avec la qualité de ces mêmes actions. Madame de Maintenon reconnaissait évidemment la vérité de cela quand elle disait « Il y a dans la droiture autant d'habileté que de vertu ».